Chapitre 8. Il n'y a pas de justice dans l'histoire. Comprendre l'histoire humaine dans les millénaires qui suivirent la révolution agricole revient à répondre à une seule question. Comment les hommes se sont-ils organisés en réseaux de coopération de masse alors que leur manquaient les instincts biologiques nécessaires pour entretenir de tels réseaux? La réponse courte est qu'ils créèrent des ordres imaginaires et inventèrent des écritures. Ces deux inventions comblèrent les vides laissés par notre héritage biologique. Pour beaucoup, cependant, l'apparition de ces réseaux fut une bénédiction douteuse. Les ordres imaginaires qui supportaient ces réseaux n'étaient ni neutres ni justes. Ils divisèrent les gens en semblant de groupes hiérarchiquement organisés. Aux couches supérieures, les privilèges et le pouvoir, tandis que les couches inférieures souffraient de discrimination et d'oppression. Le code d'Hammurabi, par exemple, instaurait un ordre de préséance avec des supérieurs, des gens du commun et des esclaves. Les supérieurs avaient toutes les bonnes choses. Le commun devait se contenter des restes. Les esclaves étaient roués de coups s'ils se plaignaient. Malgré sa proclamation de l'égalité de tous les hommes, l'ordre imaginaire instauré par les Américains en 1776 établit également une hiérarchie. Il créa une hiérarchie entre les hommes qui en bénéficiaient et les femmes qu'il laissa démunies, mais aussi entre blancs qui jouissaient de la liberté et noirs et indiens d'Amérique, considérés comme des hommes inférieurs qui ne pouvaient donc pas se prévaloir des droits égaux des hommes. Nombre des signataires de la Déclaration d'indépendance avaient des esclaves. Ils ne leur donnèrent pas la liberté à la signature et ne se considéraient pas non plus comme des hypocrites. Dans leur idée, les droits des hommes n'avaient pas grand-chose à voir avec les noirs. L'ordre américain consacra également la hiérarchie entre riches et pauvres. En ce temps-là, l'inégalité liée au fait que les parents fortunés transmettaient leur argent et leurs affaires à leurs enfants ne choquait guère la plupart des Américains. Dans leur idée, l'égalité signifiait simplement que les mêmes lois valaient pour les riches et les pauvres. Rien à voir avec les indemnités de chômage, l'intégration scolaire ou l'assurance maladie. La liberté avait aussi de toute autre connotation qu'aujourd'hui. En 1776, elle ne signifiait pas que les sans-pouvoirs, certainement pas les Noirs ou les Indiens, ou, qu'à Dieu ne plaise, les femmes, pouvaient conquérir et exercer le pouvoir. Elle voulait dire simplement que, sauf circonstances exceptionnelles, l'État ne pouvait confisquer les biens d'un citoyen ni lui dicter ce qu'il devait en faire. Ce faisant, l'ordre américain soutenait la hiérarchie de la richesse, que d'aucuns croyaient envoyée par Dieu quand d'autres y voyaient l'expression des lois immuables de la nature. La nature, assurait-on, récompensait le mérite par la richesse et pénalisait l'indolence. Toutes ces distinctions, entre personnes libres et esclaves, entre blancs et noirs, entre riches et pauvres, s'enracinent dans des fictions. On reviendra sur la hiérarchie homme-femme. Une des règles d'airain de l'histoire est que toute hiérarchie imaginaire désavoue ses origines fictionnelles et se prétend naturelle et inévitable. Ainsi, nombre de ceux qui estimaient naturelle et correcte la hiérarchie des hommes libres et des esclaves ont prétendu que l'esclavage n'était pas une invention humaine. Hammurabi la pensait ordonnée par les dieux. Selon Aristote, les esclaves ont une nature servile, tandis que les hommes libres ont une nature libre. Leur place dans la société n'est qu'un reflet de leur nature intime. Interrogez les tenants de la suprématie blanche sur la hiérarchie raciale et ils vous serviront une leçon pseudo-scientifique sur les différences biologiques entre les races. Vraisemblablement vous dira-t-on que, dans le sang ou les gènes caucasiens, quelque chose rend les blancs naturellement plus intelligents, plus moraux et plus assidus au travail. Interrogez un capitaliste endurci sur la hiérarchie de la richesse. Et il vous expliquera probablement quel est le fruit inévitable de différences objectives de capacité. Dans son idée, les riches ont plus d'argent parce qu'ils sont plus capables et plus diligents. Il n'y a donc pas à s'inquiéter que les nantis jouissent de meilleurs soins ou d'une éducation et d'une alimentation meilleure. Les riches méritent amplement tous les avantages dont ils jouissent. Les hindous, qui adhèrent au système des castes, pensent que ce sont des forces cosmiques qui ont rendu une caste supérieure à une autre. Selon un mythe de la création hindoue bien connu, les dieux ont façonné le monde à partir du corps d'un être primordial, le Purusa. Le soleil a été fait avec son œil, la lune avec son cerveau, les brahmines, prêtres, à partir de sa bouche, les kshatriyas, guerriers, avec ses bras, les vaisyas, paysans et marchands, avec ses cuisses, et les sudras, serviteurs, avec ses jambes. Accepter cette explication et les différences sociopolitiques entre brahmines et sudras sont aussi naturelles et éternelles que les différences entre le soleil et la lune. Les anciens Chinois croyaient que, quand elle créa les hommes avec la terre, la déesse Nuva pétrit les aristocrates dans une belle argile jaune et les gens du commun dans la boue brune. Or, pour autant que nous puissions le savoir, toutes ces hiérarchies sont le produit de l'imagination humaine. Les dieux n'ont pas créé Brahmine et Sudra à partir de parties différentes d'un être primordial. La distinction entre deux castes est plutôt le fait de lois et de normes inventées par les hommes en Inde du Nord il y a environ 3000 ans. N'en déplaise à Aristote, il n'existe aucune différence biologique avérée entre esclaves et hommes libres. Ce sont les lois et les normes des hommes qui ont fait des uns des esclaves et des autres des maîtres. Entre noirs et blancs existent des différences biologiques objectives comme la couleur de la peau et les types de cheveux, mais rien ne prouve que les différences s'étendent à l'intelligence ou à la morale. La plupart des sociétés prétendent que leur hiérarchie sociale est naturelle et juste, mais que celle des autres se fonde sur des critères faux et ridicules. Les Occidentaux modernes ont appris à se moquer de l'idée de hiérarchie raciale. Ils sont choqués par les lois qui interdisent aux Noirs d'habiter les quartiers blancs ou d'étudier dans des écoles blanches ou d'être traités dans des hôpitaux blancs. Mais la hiérarchie des riches et des pauvres, qui oblige les riches à vivre dans des quartiers à part, plus luxueux, à étudier dans des écoles réservées et plus prestigieuses, ou à suivre un traitement médical dans des cliniques distinctes, mieux équipées, semble parfaitement justifiée aux yeux de beaucoup d'Américains et d'Européens. Or, il est prouvé que la plupart des riches sont riches pour la simple raison qu'ils sont nés dans une famille riche, alors que la plupart des pauvres resteront pauvres tout au long de leur vie pour la simple raison qu'ils sont nés dans une famille pauvre. Malheureusement, les sociétés humaines complexes paraissent nécessiter des hiérarchies imaginaires et une discrimination injuste. Bien entendu, toutes les hiérarchies ne sont pas moralement identiques et certaines sociétés ont souffert de formes de discrimination plus extrêmes que d'autres. Mais les chercheurs savent qu'aucune grande société n'a pu se passer de toute discrimination. Les hommes n'ont cessé de créer l'ordre dans leur société en classant la population en catégories imaginaires du style supérieur, roturier et esclave, blancs et noirs, patriciens et plébéiens, brahmines et sudras ou riches et pauvres. Ces catégories ont régi les relations entre des millions d'individus en rendant certains hommes légalement, politiquement ou socialement supérieurs aux autres. Les hiérarchies remplissent une fonction importante. Elles permettent à de parfaits inconnus de se faire plaisir les uns les autres sans dépenser du temps et de l'énergie à faire personnellement connaissance. Dans la pièce de Bernard Shaw, Pygmalion, Henry Higgins n'a aucunement besoin de se lier intimement avec Eliza Doolittle pour savoir comment se conduire avec elle. Il lui suffit de l'entendre parler pour savoir qu'elle est d'une classe défavorisée et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Par exemple, l'utiliser comme gage dans son pari de faire passer une petite marchande de fleurs pour une duchesse. Une Eliza moderne qui travaille chez un fleuriste doit savoir les efforts qu'elle doit accomplir pour vendre des roses et des glaïeuls aux douzaines de clients qui entrent dans la boutique tous les jours. Elle ne saurait faire une enquête détaillée sur les goûts et le portefeuille de chacun. Elle se fonde plutôt sur des indices sociaux, la manière dont chacun est habillé, son âge, et si elle n'est pas politiquement correcte, la couleur de sa peau. C'est ainsi qu'elle reconnaît immédiatement l'associé du cabinet comptable, qui va probablement passer une grosse commande de roses coûteuses, du garçon de course, qui a $1 pour un bouquet de marguerites. Bien entendu, les différences de capacité naturelle jouent aussi un rôle dans la formation des distinctions sociales. Mais ces diversités d'aptitudes et de caractères passent habituellement par des hiérarchies imaginaires. Cela se produit de deux manières importantes. Avant toute chose, la plupart des capacités ont besoin de mûrir et de se développer. Même si quelqu'un est né avec un talent particulier, celui-ci demeurera généralement latent s'il n'est pas encouragé, entretenu et cultivé. Tout le monde ne reçoit pas les mêmes chances de cultiver et d'affiner ses capacités. que l'occasion soit donnée de le faire dépendra habituellement de la place de chacun dans la hiérarchie imaginaire de sa société. Harry Potter en est un bon exemple. Retiré de son éminente famille de magiciens et élevé par des moldus ignares, il arrive à Poudlard sans la moindre expérience de la magie. Il lui faut 7 livres pour être en pleine possession de ses pouvoirs et connaître ses capacités uniques. Ensuite, même si les personnes appartenant à des classes différentes développent exactement les mêmes capacités, il est peu probable qu'elles connaissent un succès égal parce qu'elles devront jouer le jeu avec des règles différentes. Imaginons, dans l'Inde sous domination britannique, un intouchable, un brahmine, un Irlandais catholique et un Anglais protestant qui auraient acquis exactement la même acuité en affaires. Ils n'auraient pas eu les mêmes chances de s'enrichir. Le jeu économique était faussé par des restrictions juridiques et des plafonds de verres officieux. Le cercle vicieux. Toutes les sociétés reposent sur des hiérarchies imaginaires, mais pas nécessairement les mêmes. À quoi tiennent les différences? Pourquoi la société indienne industrielle classait-elle les gens en castes, la société ottomane selon la religion et la société américaine selon la race? Dans la plupart des cas, la hiérarchie est née d'un ensemble de circonstances historiques accidentelles, puis s'est perpétuée et raffinée au fil des générations, les différents groupes cultivant leurs intérêts acquis. Par exemple, beaucoup de chercheurs conjecturent que le système de caste hindou a pris forme voici 3000 ans, quand les Indo-Aryens envahirent le sous-continent indien et assujettirent la population locale. Les envahisseurs établirent une société stratifiée, où ils se réservèrent, naturellement, les positions dirigeantes, prêtres et guerriers, reléguant les indigènes au rang de serviteurs et d'esclaves. Peu nombreux, les envahisseurs redoutaient de perdre leur statut privilégié et leur identité unique. Pour prévenir ce danger, ils divisèrent la population en castes, chacune étant appelée à exercer une activité spécifique et à jouer un rôle précis dans la société. Chacune avait son statut, ses privilèges et ses devoirs. Le mélange des castes, relations sociales, mariage, voire partage des repas, était interdit. Et loin de rester simplement légal, les distinctions devinrent une partie inhérente de la mythologie et de la pratique religieuse. Les dirigeants prétendirent que le système des castes reflétait une réalité cosmique éternelle, plutôt qu'un phénomène historique aléatoire. Éléments essentiels de la religion hindoue, les concepts de pureté et d'impureté furent mis à contribution pour étayer la pyramide sociale. Les hindous pieux apprirent que tout contact avec les membres d'une caste différente pouvait les polluer personnellement, et avec eux, l'ensemble de la société. Ils devaient donc les fuir comme une abomination. Les idées de ce genre ne sont pas l'apanage des hindous. Tout au long de l'histoire et dans la quasi-totalité des sociétés, les concepts de pollution et de pureté ont joué un rôle décisif dans la mise en œuvre de divisions sociales et politiques, et de nombreuses classes dirigeantes les ont exploitées afin de maintenir leurs privilèges. La peur de la pollution n'est cependant pas entièrement une fabrication de prêtres et de princes. Elle s'enracine dans des mécanismes de survie biologique qui nourrissent chez les hommes une révulsion instinctive envers les porteurs de maladies potentielles comme les malades et les cadavres. Si vous voulez isoler un groupe humain, femme, juif, rome, gay ou noir, le mieux est de convaincre tout le monde que ces gens-là sont une source de pollution. Le système hindou de caste et les lois de pureté qui l'accompagnent se sont profondément enracinés dans la culture indienne. Longtemps après que l'invasion indo-aryenne eut été oubliée, les Indiens continuèrent de croire au système des castes et à abominer la pollution causée par les mélanges. Les castes n'étaient pas pour autant à l'abri du changement. En fait, avec le temps, elles se divisèrent en sous-castes. Les 4 castes d'origine finirent par donner 3000 groupes différents, les Jati, littéralement naissance. Mais cette prolifération ne changea pas le principe de base du système, selon lequel toute personne naît dans un rang particulier et toute infraction à ces règles pollue la personne elle-même et la société dans son ensemble. La jati d'une personne détermine sa profession, ce qu'elle peut manger, son lieu de résidence et qui elle peut épouser. Habituellement, on ne peut se marier que dans sa caste et les enfants héritent de ce même statut. Chaque fois qu'une nouvelle profession s'est constituée ou qu'un nouveau groupe est entré en scène, ses membres ont dû être reconnus comme une caste afin de recevoir une place légitime dans la société hindoue. Les groupes incapables d'obtenir une reconnaissance en tant que caste étaient littéralement des hors-castes. Dans cette société stratifiée, ils n'occupaient pas même l'échelon le plus bas. On devait les connaître sous le nom d'intouchables. Il leur fallait vivre à l'écart des autres, condamnés à vivoter de manière humiliante et répugnante, souvent en triant les ordures. Même les membres des castes les plus basses ont évité de frayer ou de manger avec eux, d'être en contact et assurément de se marier avec eux. Dans l'Inde moderne, les questions de mariage et de travail restent très fortement influencées par le système des castes, malgré tous les efforts du gouvernement démocratique pour briser ces distinctions et convaincre les hindous que le mélange des castes ne pollue pas.